Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et comme d'habitude, tous les premiers mardis du mois, nous allons nous enquérir de ce qui se passe dans le monde syndical.
La pause syndicale.
En l'an 2000, il y avait en Suisse quelques 400 hôpitaux. Ils seront guère plus de 50 ou de 70 à l'horizon 2030. Le mouvement est en marche partout en Suisse et le secteur hospitalier est en train de vivre la plus formidable restructuration jamais entreprise, Valérie.
En effet, Fabien, la révision de la loi sur le financement des hôpitaux, entrée en vigueur en 2012, visait à abaisser les coûts de la santé grâce à la concurrence. En revanche, cette modification a déclenché dans tous les cantons une réorganisation d'envergure du service hospitalier. Les hôpitaux publics et privés sont mis en concurrence au bénéfice plutôt des cliniques privées. Illustration, avec le chef des urgences d'un hôpital public interviewé pour l'émission Temps présent de la RTS du 3 septembre 2015.
Un service d'urgence, c'est par définition onéreux et peu rentable.
Les frais principaux d'un hôpital, c'est le personnel, 70-80%, les charges, je veux dire, et l'infrastructure. Donc clairement, aux urgences, on doit avoir effectivement une dotation qui est assez importante, donc un coût qui est important, une infrastructure, radiologie, bloc et tout ça, qui fait que effectivement ça coûte cher aux hôpitaux publics de devoir maintenir une permanence 24-24-7-7. Donc ça, ça a un coût que les cliniques n'ont pas pour l'instant, puisqu'elles ferment en gros leur structure la nuit, les week-ends, ou une partie des week-ends, et les jours fériés.
Et l'on retrouve l'inégale répartition des tâches entre le public et le privé, véritable pierre d'achoppement de cette restructuration hospitalière.
Et on le comprend, les hôpitaux publics sont en difficulté par ce nouveau système. On imagine avec des répercussions sur le personnel et les patients, Fabio.
Oui, dotation insuffisante, sous-effectif, épuisement professionnel, sécurité des patients mal assurés. C'est justement de tout cela que dont nous allons parler avec notre invitée, infirmière dans un hôpital public vaudois depuis 7 ans.
Et bonjour Julie. On sait que les répercussions directes de ces choix stratégiques sur les conditions de travail du personnel sont considérables. Concrètement, quels sont les changements intervenus dans ton travail et dans la vie de ton service ?
Alors, pour y répondre, j'aimerais bien d'abord vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre d'où vient l'épuisement des professionnels. Tout d'abord, je m'en réjouis, mais tant mieux, on vit de plus en plus longtemps et on guérit des pathologies qu'on ne guérissait pas avant. Et ce qu'il y a pour corollaire, c'est qu'on a des patients, des soins qui sont de plus en plus techniques et des patients aussi qui sont de plus en plus dépendants et qui ont besoin aussi d'avoir des soins adaptés à leur pathologie. Donc ça, c'est au niveau de la composition des soins qui nous demande aussi d'avoir plus de disponibilité et plus de temps. Ensuite, on est aussi au carrefour de différentes professions parce que les prises en charge sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a autant les médecins, les chirurgiens, les physios, les ergos, enfin différentes professions. Et donc nous, on doit jongler entre toutes ces sollicitations et s'adapter à chaque fois aux impératifs de chacun, donc ce qui demande de se réorganiser au quotidien. Et puis après, donc la pénibilité au niveau humain, c'est-à-dire qu'on traite des patients chez qui ça peut être des situations dramatiques avec lesquelles on doit digérer ces situations. Je vous donne juste un exemple pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Il y a 2 semaines, j'ai une collègue qui me disait qu'elle a accompagné un patient en fin de vie avec sa famille et le patient à peine décédé devait reprendre en charge un autre patient, donc elle devait être dans le curatif et donc passer d'une situation à l'autre sans avoir le temps de digérer, en fait, c'est détresse humaine, donc c'est parfois très difficile. Donc sur le long terme, ça épuise, d'autant plus avec des horaires qui sont atypiques, 2 jours, des nuits qui peuvent s'enchaîner dans la même semaine. Donc tout ça fait que sur le long terme, on s'épuise. Et ça se traduit notamment par un absentéisme qui demande à ce qu'on vienne remplacer sur nos jours de repos. Donc on est rappelé pour aller travailler sur nos jours de repos. Et quand nos collègues ne peuvent pas venir, on travaille en sous-effectif, donc ce qui augmente d'autant plus la charge de travail, ce qui augmente notre épuisement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait.
Oui, le cercle vicieux, c'est ça. Oui.
Tu venais de parler maintenant d'une collègue qui n'avait pas eu le temps, en fait, de finir une action, en plus avec un patient décédé. Elle devait déjà en recommencer une autre, il n'y a pas de temps de passage, etc. Est-ce que la relation patient-soignant, elle est affectée, en fait ?
Elle est affectée dans la mesure où, effectivement, on n'a pas forcément le temps de faire tous les soins qu'on voudrait faire et dans la vision qu'on a. Après, on essaye quand même de prendre beaucoup sur nous assurer un maximum de soins aux patients et aux familles. Donc on prend beaucoup sur nous justement pour éviter que cette relation ne soit pas affectée, mais évidemment que...
Le stress fait qu'on a moins de temps pour consacrer à l'explication peut-être, et puis rassurer.
L'explication, rassurer, effectivement. On se concentre sur des gestes parfois plus techniques et au détriment parfois de la communication et du soin relationnel. Ouais.
Oui, alors c'est intéressant d'écouter à ce propos l'avis de l'économiste Masha Madurin, qui est auteur d'une étude sur le marché de la santé en Suisse.
La notion de concurrence vient de la théorie de l'économie libre de marché. Mais ça ne fonctionne pas dans le système de santé. Et en fait, cela se traduit par une énorme pression sur les coûts dans les hôpitaux. La concurrence sur les coûts ne peut s'exercer qu'en économisant sur la force de travail, c'est-à-dire l'effectif du personnel. Du coup, le stress des employés va augmenter. Ou bien alors, on engage des gens moins bien formés et qui seront moins bien payés.
Voilà un nouvel extrait de ce temps présent de la RTS.
Alors, l'année dernière, il y a eu une journée de mobilisation qui a rassemblé le personnel soignant autour de revendications qui portaient justement sur la dégradation des conditions de travail. Comment la hiérarchie a-t-elle réagi à ces revendications ? Est-ce qu'elle s'efforce de résoudre les problèmes que tu viens d'évoquer, Julie ?
C'est-à-dire que au niveau de la hiérarchie, les conditions de travail ne sont pas mises en cause. Ce à quoi j'assiste plutôt, c'est évidemment, vu qu'on travaille dans un environnement stressant, il y a plus de conflits au travail. Et puis effectivement, il y a aussi des problèmes de communication. Donc on traite ça comme des problèmes individuels et comme des problèmes de communication sans mettre en cause l'organisation qui mène à ces conflits. En fait. Donc je ne ressens pas pour l'instant un soutien avec une augmentation de dotation ni quoi que ce soit. C'est traité comme des problèmes interpersonnels, individuels. Et ce que je remarque aussi, c'est que une dévalorisation des soignants, disant qu'ils sont peut-être plus capables de faire ce métier, qu'ils sont peut-être plus à la hauteur. Donc, il y a aussi une psychologisation quelque part de ces troubles.
Fabio,
est-ce qu'il y a la règle de diviser pour mieux régner ?
C'est difficile d'en faire une règle absolue selon les services. Il y a selon les équipes, il y a des collectifs qui vont être plus unis que d'autres, mais j'ai du mal à répondre à cette question comme ça.
Mais bon, on l'entend, hein, il y a de la souffrance, il y a de l'épuisement, il y a parfois effectivement des mauvaises ambiances qui sont générées par ce stress au travail. Est-ce que le personnel des hôpitaux publics est tenté d'abandonner le métier ou de quitter le service public pour aller se faire engager dans le privé ? Enfin, est-ce que dans ton service et dans ton environnement professionnel, c'est des choses que tu as observées ?
Oui, alors clairement, il y a beaucoup de soignants qui se posent la question de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils voudraient faire, parce qu'il y a vraiment une détresse par rapport à ça. Mais après, la migration vers le privé, je ne le vois pas trop. Ce que je remarque surtout, pour tenir le coup, en fait, au niveau de mon service, même d'autres, c'est la baisse du temps de travail, surtout les gens, pour avoir plus de repos. Les personnes prennent des congés sans solde aussi pour pouvoir souffler. Donc c'est plutôt ces stratégies individuelles-là plutôt que d'aller travailler dans le privé, ce que je remarque.
Si on regarde de manière très pragmatique, d'aller dans le privé, est-ce qu'on aurait des avantages sur les salaires, par exemple, ou sur le temps de travail, le taux d'occupation ?
Je ne connais pas assez bien la situation dans les cliniques pour y répondre. Mais...
Alors, moi, peut-être, je peux apporter un éclairage. Je ne connais pas toutes les situations dans toutes les cliniques privées, mais si on se réfère, par exemple, au conflit qu'il y a eu à Neuchâtel autour de l'hôpital de la Providence, ce qui apparaît clairement, c'est que un hôpital qui est privatisé, ça veut dire on remet en question tous les engagements des personnes qui travaillaient avant avec un statut de fonctionnaire, avec un statut de fonction publique, pour leur proposer des contrats de droit privé dans un environnement privé, donc avec des moins bonnes conditions au niveau social, au niveau salarial, etc. Donc une infirmière qui travaille dans le privé a clairement des moins bonnes conditions qu'une infirmière qui travaille dans le public, ce qui explique évidemment le fait que les cliniques privées peuvent se targuer d'avoir des coûts qui sont moindres.
Et tout ça reste en l'avantage justement des hôpitaux publics, puisque le personnel reste un petit peu lié avec des meilleures conditions.
C'est cela.
Fabio ?
Julie, tu parlais du mouvement du personnel tout à l'heure. Ce mouvement un peu incessant, il est aussi peut-être nature à créer des situations précaires dans les équipes. Non, on sait que la notion d'équipe soignante, c'est quelque chose de très fort dans l'hôpital. Mmh. Alors, est-ce que ces mouvements font que ça affaiblit un peu ce tissu très, très, très fort dans cette profession ?
C'est sûr qu'on a besoin de travailler en équipe déjà pour se soutenir, mais en plus quand on se connaît, quand on connaît la réaction de nos collègues, ça crée une dynamique de travail qui est beaucoup plus sécuritaire pour les patients, et puis on sait comment fonctionne l'un l'autre. Après, ta question était, est-ce que ça affaiblit les équipes, c'est ça ?
Est-ce que c'est une continuelle reconstruction des équipes ?
Oui, c'est sûr qu'il y a un turnover assez important, et donc c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux collègues à intégrer, donc, et ça prend toujours du temps, donc on ne peut pas compter sur les nouveaux collègues, même s'il faut beaucoup, de la même façon qu'on compte sur quelqu'un qui a 5 ans ouais. d'expérience. Donc ouais. c'est sûr que ça demande à chaque fois de recréer des collectifs et d'apprendre à travailler ensemble.
Est-ce que cette problématique est vraiment liée uniquement au service de soins aux personnes, ou est-ce que c'est également le même problème pour les médecins, pour les assistants, etc. etc.
La pénibilité du travail, j'imagine, est aussi très forte pour eux. Après, eux, c'est aussi à l'hôpital où ils se forment, c'est-à-dire c'est aussi un endroit où ils font leur formation, et donc ils y restent quand même quelques années. Après, j'ai du mal à répondre sur...
À long terme, c'est plus oui. difficile. Fabio.
Julie, elle en est où la mobilisation aujourd'hui des actions ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues ?
Oui, alors suite en fait au mouvement qui avait lieu en novembre l'année dernière, on souhaite renouveler en fait cette année prolonger un peu ce mouvement par une journée de rencontre des soignants, un forum hospitalier en fait qu'on voudrait faire le 11 novembre sur Lausanne, qui permettrait en fait de pouvoir d'abord créer du lien entre les soignants, parce que ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a un grand isolement par rapport à ces dégradations des conditions de travail. Il y a l'impression qu'on est un peu seul à vivre ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc l'idée serait de créer du lien entre les personnels soignants, de faire le lien en fait, entre ces décisions politiques et puis la réalité de nos conditions de travail. Et enfin, d'arriver à des revendications et de voir comment on pourrait les porter. Donc on souhaiterait, dans le cadre de la journée du 11 novembre, au Casar à Lausanne, pouvoir aborder ces thématiques.
C'est une journée qui est ouverte à tout le monde ?
Oui, elle est ouverte à tout le
D'accord.
monde.
D'accord.
Donc, on rappelle, le 11 novembre, au Casar à Lausanne, à partir de quelle heure ?
C'est de 11h à 15h.
De 11h à 15h, pour toutes les personnes qui peuvent être intéressées à discuter de ces questions de conditions de travail et de revendications pour améliorer les choses pour les soignantes et les soignants dans les hôpitaux publics. Pour conclure, je vous propose d'écouter les propos du docteur Bertrand Kiefer, qui est membre actif de la Commission nationale d'éthique et rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, qui nous livre sa réflexion sur le rôle central des acteurs de la santé, toujours tiré du temps présent qu'on a entendu déjà tout
à l'heure. Oui, le temps présent qui est tiré de la RTS diffusée le
3 septembre 2015.
On écoute Bertrand Kiefer.
On voit actuellement une souffrance dans le personnel soignant qui n'était pas là il y a quelques années, voire quelques décennies, et que cette souffrance participe à une dégradation quand même du travail fourni. On voit les hôpitaux qui s'organisent de plus en plus comme des entreprises, voire comme des usines qui produisent du soin, et que la qualité, elle est quand même évaluée au sens habituel de l'usinage d'un produit. Et donc, il y a une certaine déshumanisation qui est en train de s'organiser dans les hôpitaux et qui n'apparaît pas vraiment dans les critères de qualité. La santé, c'est d'abord la chose la plus précieuse que nous ayons, mais c'est en même temps l'endroit où on définit l'humain dans notre société. Ailleurs, l'humain, il est défini selon ses performances, ses capacités économiques. Dans le système de santé, on a un regard particulier, et ça, on doit le surveiller comme le lait sur le feu, nous, société, nous, culture, développée. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça a été un énorme enjeu de ne pas abandonner ces gens, même à l'époque où la médecine était inefficace. On ne laissait pas sur le chemin les gens qui étaient malades. La médecine, c'est un des derniers endroits où on a une attitude comme ça, où ça ne fonctionne pas juste comme une entreprise.
Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage humain et concret que vous nous avez apporté ce soir de votre vie en milieu hospitalier. Bon retour chez vous et bonne soirée.
Merci.
À très bientôt. Et puis, on vous rappelle ces extraits de Temps présent que nous vous avons fait découvrir ce soir, Temps présent de la RTS. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Il est encore disponible en replay. C'était le 3 septembre 2015 sous le titre « Hôpital, silence, on ferme ». Avant de se retrouver pour les traditionnelles brèves syndicales, voici un petit peu de musique pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Passé de 19 minutes sur Radio Django et Radio La Fabrique. Voici le moment venu des brèves syndicales.
CFF, des économies encore et encore.
Le programme d'assainissement RAIFIT 2030 ne semble pas suffisant. Les CFF annoncent un programme d'économies supplémentaires à CFF Cargo dont les chiffres rouges du premier semestre viennent d'être publiés, tandis que les autres divisions arborent plutôt le sourire. Le SEV rappelle que les économies ne peuvent se faire sur le dos du personnel et de la sécurité du système ferroviaire, ni sur la qualité du service public.
Transport public lausannois, nouvelle CCT plébiscitée.
En 2015, le personnel des transports publics lausannois avait balayé à 85,4% le projet de convention collective de travail. La mobilisation d'alors a permis de partir sur de meilleures bases et d'arriver cette année à un texte satisfaisant, avec notamment un système salarial clair et transparent, une semaine de vacances supplémentaires. Et la discrimination du congé maternité dans la progression salariale sera abolie. Ce nouveau projet a été accepté à 74,9% par le personnel consulté il y a quelques jours. La convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour une période de 5 ans.
Mise au concours des lignes de bus jurassiennes, non au dumping.
Les syndicats Syndicom et SEV ont lancé il y a une semaine une pétition pour défendre les transports publics jurassiens contre la sous-enchère que pourrait entraîner la mise au concours des lignes l'an prochain. Selon les syndicats, il est primordial d'inclure dans l'appel d'offres des éléments protégeant les conditions de travail des conducteurs et conductrices de bus. Une motion au Parlement appuie les requêtes syndicales.
Les maçons se mobilisent.
Jour de paye. Sous ce mot d'ordre, les maçons de Suisse se mobilisent et exigent une hausse de salaire de 150 francs par mois. Le samedi 21 octobre prochain, ils manifesteront à Lausanne pour la Suisse romande et à Olten pour la Suisse alémanique et le Tessin. Les travailleurs de la construction en ont assez de voir leur pouvoir d'achat s'éroder, alors que sur les chantiers, c'est toujours plus de travail, plus de pression, dans des conditions pénibles et difficiles. En 5 ans, leur salaire a augmenté de moins de 1% et rien depuis 3 ans, alors que les primes maladie explosent et que les logements restent chers. Face au patronat qui refuse toute hausse, UNIA appelle tous les maçons romands à renforcer les rangs de la manifestation pour les 150 francs à Lausanne. Rendez-vous le 21 octobre à 14h sur la place Saint-François.
À Payerne, UNIA récupère plus de 100 000 francs d'arriérés de salaire.
Blocage de chantier fructueux pour UNIAVO à Payerne. L'entreprise Nebija Alberto, active dans la construction d'un petit immeuble d'appartements de luxe, n'avait pas réglé les salaires de certains ouvriers ni versé les nombreuses heures supplémentaires depuis 2016. Les 6 employés concernés réclamaient depuis des mois ces impayés qui s'élèvent à plus de 112 000 francs. Mandatée par les travailleurs et après avoir mis en demeure l'employeur sans succès, des secrétaires syndicaux d'UNIA sont intervenus à l'aube du 19 septembre, bloquant tous les accès du chantier. Une action payante, puisque le jour même, le patron signait une convention pour le paiement en trois fois des arriérés entre le 22 septembre et le 13 octobre. Le premier versement a déjà été effectué. UNIA attend aussi la preuve que les cotisations sociales ont bel et bien été payées.
C'était les échos du monde syndical que nous retrouverons le mardi 7 septembre. Merci beaucoup à Valérie et à Fabio pour la préparation de ce sujet, un sujet que vous pouvez retrouver sur notre site en podcast www.django.fm. Ben oui, ce sera le 7 novembre. Je sais pas ce que j'ai dit. Fabio, qu'est-ce que j'ai dit ? Dites-moi.
Septembre.
Ah oui, c'est passé ça, effectivement. Ce sera le 7 novembre.
C'est passé. Sûr.
Merci Fabio pour ce petit détail. Un sujet à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. Un peu de musique. Avec Marvin Gaye.